Quelle bonne journée pour recevoir Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Salut Martin. Sais-tu pourquoi c'est une bonne journée de te recevoir aujourd'hui?
Pourquoi?
Parce que notre économie a des ailes.
Oui.
Bombardier.
Ça débloque. Première partie
de
notre chronique, on va parler de Bombardier qui a signé ce matin, qui a annoncé ce matin qui avait signé 24 avions, 2,2 milliards, donc Airbus qui l'a annoncé. Au salon aéronautique de Dubaï au Moyen-Orient, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. On voit que les compagnies aériennes ont moins peur, disons, de la chaîne d'approvisionnement qu'il y avait pour les avions C-Series et l'équipe de vente d'Airbus, dans le fond, qui est très efficace, si on peut dire. Donc, je dirais bonne nouvelle pour à peu près tout le monde présentement.
Mais oui, ça veut dire des jobs, ça veut dire que c'est des emplois bien payés.
C'est ça. Donc, on ne perd pas la grappe aéronautique qu'on a présentement au Québec.
Fait
que c'est
là,
ça veut dire.
Combien d'avions? 24?
24.
24 pour 2 milliards.
Oui, c'est ça.
Qui achète ça?
Égyptair.
Ah,
donc,
oui.
C'est le premier contrat qui est signé depuis 18 mois. Je dirais qu'il y en a un qui a été annoncé dernièrement avec une compagnie qui ne veut pas être nommée encore d'une trentaine d'avions en Europe. Mais disons qu'il y a eu une période de 18 mois sans aucune signature. Donc, tous les acteurs de l'industrie avaient peur de ce qui était pour arriver avec Bombardier. Est-ce qu'il était pour faire faillite? Puis, je me mets à leur place. On n'achète pas un avion d'une compagnie qui est en difficulté financière. Parce que si on a besoin de moteur, on a besoin d'aile plus tard pour le réparer, on ne les a pas.
Ouais.
Donc, présentement, toutes ces interrogations-là ont disparu. Et je pense que les prochains mois vont être assez intéressants de ce côté-là.
On achète-tu l'action?
Présentement, l'action de Bombardier, on a à peu près l'assurance qu'ils ne feront pas faillite. Fait que le risque à la baisse est quand même mitigé. Est-ce que je pense que c'est la compagnie qui va avoir la plus grande croissance au cours des prochaines années? Pas certain, surtout qu'ils ont juste une petite partie des profits qui vont être faits avec cet avion-là, Airbus ayant maintenant la grande majorité. Donc, je dirais que c'est un hold, si on peut dire. Ça, là, on ne le vend pas, mais nous, présentement, on ne l'a pas dans nos portefeuilles.
Ah non, hein?
Non.
Mais c'est pas le temps de vendre.
Présentement, non. Il y a un petit hype qui est intéressant sur le titre.
Fait qu'attendez que ça monte un peu.
Un peu encore.
Bon. Un peu, quand on va augmenter de 10%?
Ah non, il y a encore de la place un peu plus.
Oui,
On sait que mais présentement, l'action là, à 2 $, c'est une action qui valait à peu près rien à cause des dettes. Donc, les dettes, les actifs. Donc, présentement, ça a monté jusqu'à 3 $. Je dirais que ça pourrait monter à 3, 4, 5. Puis, ça serait quand même une grande baisse à comparer à sa hausse. Il a été à 25, 26, 27, le Bombardier, il y a plusieurs années. Là. Donc, c'est la mort qui n'arrive pas. Donc, il y a peut-être un petit sursaut qu'on peut profiter.
Puis, comme investisseur québécois, parce que le gouvernement est actionnaire, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui?
C'est une bonne nouvelle pour les... La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas mis leurs milliards? Est-ce que Bombardier aurait vendu pareil?
Je ne serais plus là. Ben non.
C'est la question.
Ouais. Donc, c'est dur à répondre. Une entreprise en difficulté qui peut se passer d'un milliard? Comment?
La réponse, la question la réponse. Là.
Ben ouais.
Mais je dirais que... Est-ce que le gouvernement... Ben, on en a déjà parlé. Je trouve que le paiement gouvernemental était venu avec pas assez de conditions, si on peut dire. Mais présentement, je dirais que ça tourne bien pour à peu près tous les acteurs de cette situation-là.
Aujourd'hui, l'autre sujet dont on va aborder, dont on va parler, c'est les placements et l'impôt. Parce que c'est important. Là. Évidemment, l'impôt, on comprend c'est quoi quand tu as un revenu, tu as un salaire. Tu perds un méchant montant qui s'en va en impôt. Ça, c'est à part des taxes à la consommation. Par contre, le traitement fiscal pour des placements, c'est bien différent, puis tu voulais nous parler de ça.
Oui, je voulais vous parler de ça parce qu'on a parlé la semaine dernière des paradis fiscaux, donc des endroits où il y a l'absence de traitement fiscal la plupart du temps des investissements. Mais on va parler au Canada, qu'est-ce qui arrive avec ceux-ci. Premièrement, il faut être clair, au Canada, il y a plusieurs abris fiscaux qui existent. CELI, REER, compte de retraite immobilisée, c'est tous des véhicule de placement dans lequel il n'y a pas d'impôt qui est payé durant la période d'investissement. Ça veut dire entre la période que c'est investi et la période qu'on retire, il n'y a pas d'impôt qui est pris dans ces comptes-là. Et c'est très important de l'inclure dans une planification fiscale parce qu'il y a des types d'actifs qui vont aller dans ce type de compte-là et des types d'actifs qui vont aller dans des comptes au comptant, par exemple. Et pour bien comprendre ça, il faut savoir comment chacun de ces placements-là sont imposés. 3 types de placements qu'on peut faire, qu'on peut recevoir dans le fond.
3 types de revenus.
De revenus, c'est le bon mot. Intérêts, dividendes et gains capital.
Voilà.
Et comment sont-ils imposés? On va en parler rapidement aujourd'hui. Les intérêts, comme un revenu de particulier, imposable à 100%.
Mais est-ce que juste si tu les encaisses? ou si c'est juste cumulé dans ton compte?
Donc, là, on va parler dans un compte au comptant.
Ouais.
Okay, dans un compte au comptant, si on achète, par exemple, on a une obligation, dans le fond, c'est un
prêt. Si on a du cash, on a 1 000 000 dans un compte d'épargne.
C'est ça.
Mettons.
Oui.
Simplifié. L'intérêt que tu fais là-dessus?
Imposable, 100%.
Même si tu ne l'as pas sorti de ton
même
compte?
Même si on ne sort pas de notre compte.
Parfait. Alors, l'intérêt est imposable dans l'année où tu l'as gagné.
Voilà.
Que tu l'as caché ou non.
C'est ça.
C'est important, là.
C'est important. Parfait. Et c'est important à savoir, c'est qu'est-ce qu'on... Donc, les paiements qu'on a le plus d'intérêt dessus, on va avoir tendance à le mettre dans un compte immobilisé. Donc, si on a un compte au comptant et un compte REER et un compte CELI, donc la partie de nos investissements qu'on va utiliser, qu'on pense recevoir beaucoup d'intérêt, on va le mettre dans un compte immobilisé.
Qui est un REER ou un CELI.
Exactement.
Parfait. Et en passant, quand tu imposes, le particulier s'impose sur les revenus d'intérêt dans le compte courant. Exemple, oui. S'il était un peu nounou, là, puis il laissait le million là-dedans, bien, il va se faire imposer à son taux marginal d'imposition à lui. Alors,
voilà.
S'il gagne 100 000 $ par année à part ça, bien, il va être à 50% taux
à
marginal.
50,
whatever. Puis, ça veut dire qu'il paye le gros taux.
Voilà.
Gros taux sur l'intérêt cumulé dans son compte.
C'est
parfait.
Pour ça que si on parle de placement, que des gens, présentement, ont des certificats de dépôt garantis ou un compte à intérêt élevé ou des choses comme ça, non seulement, présentement, ça ne paye pas d'intérêt ou presque pas, en plus, ils sont imposés là-dessus. Donc, si on rajoute l'inflation, personne ne perd de l'argent et les gens en perdent.
C'est ça. Parfait. Ça, c'est l'intérêt. Maintenant, des dividendes.
Dividendes.
On va expliquer c'est quoi un dividende.
Un dividende, donc, c'est le paiement par une compagnie d'une partie de leur profit qui est remis aux actionnaires selon un... C'est annoncé d'avance selon à chaque trimestre ou à chaque année ou des choses
mais
comme
ça. Mais ça, c'est parce que tu as des actions dans cette compagnie-là.
Et voilà.
Ce sont les actionnaires qui reçoivent des dividendes. Alors, c'est
un
chèque, mais le type de revenu, on va l'expliquer de même, là, le type de revenu, c'est un salaire? Non, c'est pas un salaire, je ne travaille pas pour eux autres. C'est-tu de l'intérêt? Non, c'est pas de l'intérêt. C'est un dividende, c'est-à-dire c'est un rendement sur ton placement.
Voilà. Et le dividende est traité de façon particulière parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement se dit la compagnie a déjà été imposée pour une partie de ce montant-là, donc on va imposer le contribuable juste pour l'autre partie sur laquelle la compagnie n'a pas été imposée. Donc, ce qui fait diminuer le revenu imposable pour le particulier, ce qui fait que le dividende est beaucoup plus intéressant à savoir qu'un intérêt présentement au niveau d'impôt.
Alors, au lieu d'être imposé, tu reçois 1 000 d'intérêt, tu payes 50 mettons ton taux marginal, c'est 50 du 1 000. Tu reçois 1 000 de dividende, tu n'es pas imposé à 50% dessus.
C'est ça.
Tu es imposé à un tiers, je ne sais pas,
deux
tiers.
À peu près un tiers. Donc, si l'entreprise a été imposée à 22% dessus, donc un principe d'intégration, donc c'est l'autre pourcentage qui va être intégré au particulier.
Voilà.
La même
Et
chose...
ça aussi, faut-tu l'aies encaissé ou juste comptabilisé?
Juste comptabilisé.
Parfait.
Donc, la même chose aussi pour les dividendes. Quand on en a les titres à plus haut dividendes, on va préférer les mettre dans des comptes immobilisés.
Parce que les revenus générés dans des comptes immobilisés ne sont pas imposables lorsque tu l'as généré, mais plutôt quand tu vas le décaisser.
Si c'est le REER et non pas le CELI.
Voilà.
Voilà. Et on va parler de la dernière chose, c'est le gain en capital qui est le plus intéressant, qui lui est juste taxable à 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50 du profit est imposable au niveau du gouvernement. Et en plus, deux autres avantages, c'est que les pertes peuvent être réparties dans le futur. Donc, si on fait une perte cette année sur une perte en capital, on peut reporter cette perte-là ad vitam aeternam pour le restant de notre vie.
Hey, explique-le ce que ça veut dire. Là.
Ça veut dire...
Je vends des actions à perte. Je l'ai acheté 10$, je la vends 4$. J'ai perdu 6. On va prendre une action seulement.
Ouais.
J'ai perdu 6$.
Ouais.
Ben, je ne paye pas d'impôts. Là.
Non. Bon. Donc,
l'année prochaine, j'ai fait 100$ en vendant une action.
Oui.
Bien, je vais être. Premièrement, on va faire le calcul 100 moins 6 parce que j'ai fait 6$ de perte.
C'est ça.
Tu me suis?
Oui.
Je vais, donc, j'ai fait 94. 94$ va être divisé en deux.
Voilà.
Alors, ça fait 40, whatever, 45.
47.
Puis le 47. Puis le 47$, il y a 47$ d'imposé. Puis je vais avoir un taux marginal d'imposition de 50% sur le 47$.
À
on va payer 23$.
Exactement.
Fait que sur mon 100$ de gain en capital, ultimement, on va payer 23$.
Donc,
c'est du 23%, c'est bon.
C'est ce qui est le plus intéressant, dans le fond, pour les gens, dans un compte non immobilisé, dans un compte au comptant. Donc, on va maximiser les gains en capital, si on peut dire. Donc, les actions vont être principalement mises dans ces comptes-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les pertes? C'est qu'on peut aussi, non seulement on peut utiliser les pertes pour le futur, mais on peut revenir en arrière pendant 3 ans pour utiliser ces pertes-là. Donc, si l'année dernière, vous avez payé un gain en capital, cette année, vous faites des pertes, vous pouvez revenir en arrière et appliquer ces pertes-là sur les années d'avance. Donc, je dirais que la plupart des choses sont mises en place pour favoriser, dans le fond, le gain en capital. Et effectivement, c'est
plus atteint. Explique sur quel actif on calcule des gains en capitaux.
Donc, les gains en capitaux, dans le fond, c'est une vente d'actifs, n'importe quel actif, notamment dans un portefeuille Dans un portefeuille d'investissement, ça va être les actions. Okay? Mais ça peut aussi s'appliquer sur l'immobilier. Ça peut aussi s'appliquer sur les œuvres d'art. Ça peut aussi s'appliquer sur à peu près n'importe quoi. N'importe quel actif pour lequel le gouvernement n'a pas énoncé que ce n'était pas applicable.
OK.
Ça, on peut dire.
Une voiture? Prenons l'hypothèse, là. Je sais que le monde écoute, puis ça va
bon. Il faut, mais... faut que ce soit un actif qui ait l'objectif de prise de valeur avec le temps.
Si fait que si tu es un collectionneur d'auto, ouais, puis à prendre de la valeur, tu vas payer de du
gain capital. On peut payer du gain capital dessus.
A, dans le fond, ouais, le principe, c'est si tu as acheté ton actif dans le but de faire un gain, il va être imposable.
C'est ça.
Évidemment, il y a la résidence principale qui est exonérée. On aura la chance de s'en reparler peut-être, là, mais la résidence principale, ça ne veut pas dire que c'est la résidence dans laquelle tu vis.
Non, ça veut dire que le choix qui a été fait par l'individu de choisir dans laquelle résidence, c'est sa résidence principale. Donc, tout ça pour dire, si on peut faire un résumé de ce qu'on a dit, c'est que c'est important de décider quel actif va être dans quel compte pour pouvoir maximiser, dans le fond, faire l'optimisation fiscale. Si on peut parler aussi de taux marginal, rapidement, gain capital 27 % si on est au plus haut taux, dividende 40 % intérêt 54 % donc voilà, toujours plus intéressant d'investir dans des actifs qui prennent de valeur pour faire un gain capital.
C'est très certainement un élément majeur dans la stratégie de placement de faire l'appariement entre le type de placement, mais également le traitement fiscal, parce que ça vient jouer sur ton rendement.
C'est ça.
Bien dit?
Oui.
Excellent. Merci beaucoup, Martin.
Merci à toi, Rick.
Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont.